Bonjour, bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux. Les nouveautés cette semaine, il y en a 9. L'événement de son vivant, Encanto, la fantastique famille Madrigal, House of Gucci, Supreme, Soul Kids et Resident Evil, Welcome to Raccoon City, au crépuscule, Frida, Vida, la Vida. Voilà, donc pour la programmation musicale, on a quand même été beaucoup pêché dans le film Suprême, c'est un peu logique puisque c'est quand même un film musical en partie. Et on commence par un titre qu'on entend au début du film, George Benson, The Ghetto, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Yes, this is the ghetto. Yeah, baby. Don't you know it's all right? Oh, yeah.
Mm-hmm. Hey!
Benson, The Ghetto. Si vous êtes un gros fan de George Benson, sachez qu'il sera à l'Olympia début juillet 2022, mais il va falloir économiser un petit peu de sous-sous parce que les tarifs, bon, on n'est pas au niveau de Genesis ou d'Elton John, mais ça monte cher quand même. Voilà, donc The Ghetto, un titre que l'on entend dans le film Suprême. Suprême, on en parle dans un petit quart d'heure. On commence notre tour des nouveautés avec L'Événement. L'Événement, c'est un film qui est présenté exclusivement aux cinéastes. C'est un film de Audrey Diwan, ou Diwan, je ne sais pas comment on doit prononcer ça, réalisatrice, scénariste française, bien entendu, dialoguiste aussi, née en 80. Elle avait réalisé en 2018 Mais vous êtes fou, avec Pio Marmaille et Céline Salette. Elle est aussi scénariste de films comme Bac Nord, La French, par exemple, ou Ami, Ami. Voilà, le film d'Audrey Diwan dure 1h40, on est en France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d'avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s'engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s'arrondit. Barbara Théâtre, le journal du dimanche, un Lion d'or à Venise, amplement mérité pour ce film coup de poing. Thierry Chaise dans West France, un film choc porté par l'exceptionnelle composition d'Anna Maria Bartolomei. Étienne Sorin, Le Figaro, Audrey Diwan parle de cinéma immersif, argument marketing dans l'air du temps. Son film est plus fin que ça, il empêche de détourner le regard et cela suffit pour éprouver un peu la peur et la détresse d'une jeune fille des années 60. Olivier de Bruyne dans Les Échos, la cinéaste Audrey Diwan signe avec L'Événement un éloge de l'émancipation qui ne s'oubliera pas de sitôt. Laura Tuillier dans Libération, un récit d'affranchissement magnifié par l'actrice Anna Maria Bartolomei. La Croix, Céline Rouden, dans une époque où les femmes continuent à se battre pour la maîtrise de leur destin, le film d'Audrey Diwan sonne toujours d'actualité. On pourrait continuer comme ça, toutes les critiques que j'ai pu trouver sont extrêmement élogieuses à l'égard de ce film, et je partage donc ces éloges. On est dans la France des années 60, et c'est l'histoire d'Anne. Anne, c'est une jeune étudiante en lettres, en province, dans Angoulême. Elle tombe enceinte, mais ne désire pas garder l'enfant. Mais à cette époque, eh bien là, l'avortement n'est pas encore légalisé et il expose même ceux qui le pratiquent ou qui ont recours au foudre de la justice jusqu'à même des peines de prison ferme. Le film décrit le parcours, un véritable chemin de croix de Anne pour parvenir à ses fins. Alors, qu'est-ce qu'elle rencontre ? Eh bien, elle rencontre l'hostilité quasi générale du corps médical, la quasi absence de solidarité de ses amis, l'impossibilité d'en parler ouvertement. Et puis, elle découvre aussi des solutions illégales et barbares, comme le recours à une sorte d'automutilation ou aux bons soins d'une avorteuse clandestine. Alors, c'est un film sobre, un film âpre, avec un vrai style dans la mise en scène. La reconstitution d'époque n'est pas le problème de la réalisatrice. Elle se focalise sur son personnage principal. Et donc, elle filme quasiment tout au long du film ce personnage en caméra à l'épaule, en gros plan, le plus souvent d'ailleurs trois quarts de dos. Ce qui renforce donc cette idée d'enfermement, de solitude de Anne face à la situation. Donc c'est le récit d'une tragédie personnelle vécue par des milliers, voire des centaines de milliers de femmes à cette époque-là, où la libération des mœurs ne peut avoir lieu, puisqu'il n'y a pas de contraception libre, pas d'avortement légal. Voilà, donc c'est un film dur mais nécessaire, qui parle d'une époque à la fois lointaine, on est à... Il y a 60 ans hein, quand même, mais pas tellement lointaine non plus, parce que régulièrement, en France, certains remettent en cause le droit à l'avortement, et puis dans le monde, ben, c'est un droit qui est souvent interdit. C'est adapté du roman autobiographique de Annie Ernaux, qui montre parfaitement, le drame que pouvait représenter une grossesse non désirée pour une femme, dont la vie personnelle, les espoirs d'ascension sociale pouvaient être donc brisés par cet événement, et dont le choix était finalement avorter au risque d'y perdre la vie, ou y renoncer et perdre son avenir, et susciter, en plus de l'opprobre généralisé, le risque de se retrouver fille-mère, un statut particulièrement honteux à cette époque-là. Donc c'est un film vraiment fort, un personnage parfaitement incarné par la débutante Anna Maria Bartolomei. Moi, c'est un film que je recommande. C'est pas un film pour s'amuser, hein, ça c'est clair, mais c'est un film important. Voilà, Pierre, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure quand même.
Oui, bonjour.
C'est incroyable. Pierre Barry, à toi de t'exprimer sur L'Événement.
Eh bien, nous sommes donc en 1963 et à cette époque, très difficile d'avoir des relations sexuelles, surtout pour les filles qui risquent de tomber enceintes alors que l'avortement est strictement interdit. Tu l'as dit, même elle encourt la prison. C'est ce qu'évoque ce film dans lequel une jeune étudiante en lettres tombe malencontreusement enceinte et ne veut pas garder l'enfant pour poursuivre ses études. Alors, mon avis personnel, c'est qu'il y a quelques longueurs quand même dans la première partie du film, quand les semaines s'égrènent et qu'il ne se passe finalement pas grand-chose. Et puis voilà les scènes de l'avortement, difficilement supportables pour une âme sensible comme moi.
Oui.
Finalement, on ne sort pas indemne, je pense que tout le monde ne sort pas indemne de ce film très réaliste, réalisé, je le rappelle, par une femme. Alors pour terminer, je voudrais faire un petit rappel. La première pilule contraceptive,
oui,
appelée Enovid, apparaît en France en décembre 1967.
Oui, donc, légalisée. Hein,
légalisée, ouais, voilà, par, oui, le général de Gaulle, d'ailleurs, avec la loi Neuwirth.
Exactement.
Janvier 75, la loi Veil autorise l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Et enfin, juin 99, c'est pas si loin, mise sur le marché de la pilule du lendemain sans ordonnance. Mmh.
Petit rappel aussi en matière de contraception, les préservatifs qui sont aujourd'hui d'usage courant,
oui,
n'étaient pas interdits, mais la publicité pour les préservatifs était absolument interdite en France. Et moi, je me rappelle très bien de journal comme L'Équipe, où il y avait un tout petit entrefilé pour un mystérieux produit. Et si on creusait un petit peu, on savait que c'était un préservatif, mais rien ne permettait de dire que c'était un préservatif. Donc, même pour les hommes, la contraception était quelque chose d'assez compliqué, pour ne pas dire très compliqué.
Il fallait presque s'abstenir, quoi.
Oui, finalement. Oui, bah, c'était le fameux coitus interruptus, ou la méthode Ogino.
Ou la méthode Ogino,
voilà,
ça marche pas tout le temps.
Qui fonctionnait, hein, pas toujours, loin de là même. Bon, voilà, donc l'événement, c'est au cinéma Les Cinéastes, avec 3 séances par jour. De son vivant, on passe au Pâté Quinconce et au Méga CGR. De son vivant, c'est un film d'Emmanuelle Bercot. Emmanuelle Bercot, c'est une réalisatrice, actrice et scénariste née en 67. Elle a été actrice, par exemple, dans Police de May Wen, dans Mon Roi de May Wen aussi, d'ailleurs, il me semble bien, Carlos en solitaire, et puis réalisatrice dès 98 avec un film qui s'appelait La Puce avec Isidre Lebesco et Olivier Marchal. Je crois bien que La Puce n'est pas un long métrage, ça doit être un moyen métrage. 2001, Clément. 2004, Backstage, avec Emmanuel Seigné, Isidre Lebesco et Noémie Volsky. 2011, Mes chères études. 2013, Elle s'en va, avec Catherine Deneuve. 2014, La tête haute, avec Rod Parado et Benoît Magimel. Très très bon film d'ailleurs, il y avait aussi Catherine Deneuve là-dedans. Et 2016, l'excellentissime La fille de Brest, avec Benoît Magimel et Sidi Babette Knudsen. Babette Knudsen, actrice scandinave. Je ne vais pas m'avancer, je crois qu'elle est danoise, mais je n'en suis pas certain à 100%. De son vivant, ça dure 2h02. Un homme condamné trop jeune par la maladie, la souffrance d'une mère face à l'inacceptable, le dévouement d'un médecin, le docteur Sarah, dans son propre rôle, et d'une infirmière pour les accompagner sur l'impossible chemin. Une année, 4 saisons pour, entre guillemets, danser avec la maladie, l'apprivoiser et comprendre ce que signifie mourir de son vivant. Une revue de presse très partagée, Le Parisien, sous la plume d'Yves Jéglé et Catherine Ball. Préparez vos mouchoirs, c'est un mélo, un grand, qui donne envie de respirer et d'aimer très fort. Thomas Borès dans West France, un film audacieux sur la maladie qui parvient à regarder la mort en face. Le Point, un film qu'on n'oubliera pas de sitôt, une œuvre profonde sur ce chemin vers la mort qu'on appelle la vie. Télérama, ils sont partagés à Télérama. Il y a un pour, c'est Frédéric Strauss. Autour de situations déchirantes, Emmanuelle Bercot construit avec le sérieux qu'on lui connaît un mélo utile. Cyprien Cadéo dans L'Humanité. Emmanuelle Bercot parvient, avec une élégance qui tient presque du miracle, à tenir la ligne de crête entre le mélodrame gnangnan et le pathos plombant, sans jamais se vautrer ni dans l'un ni dans l'autre. Le tour de force doit à son parti pris résolument tourner vers la lumière. Éric Nohoff dans Le Figaro. Emmanuelle Bercot s'empare du sujet de la fin de vie sans réussir à transcender ce sujet, malgré Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Adrien Gombeau, Les Échos, à travers le récit d'une fin de vie, Emmanuelle Bercot assume le genre mélodramatique, un film pour faire pleurer, parfois surchargé, mais surtout curieusement lumineux. Jacques Mandelbaum, Le Monde, le film se range dans la catégorie ô combien redoutable du mélo-oncologique. Et je vous avais dit qu'il y avait un contre dans Télérama, c'est Cécile Murry. Plutôt que de ligoter le héros dans de grosses ficelles romanesques, on aurait aimé que le film se resserre au bord du gouffre, qu'il accompagne la marche forcée d'un homme vers la mort, sans l'encombrer d'artifices. De son vivant, donc, un film d'Emmanuelle Bercot qu'on peut voir au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Benjamin, eh bien, c'est un homme de 39 ans. Il est prof de théâtre et il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, un cancer du pancréas, stade 4 pour être précis. Il lui reste, lui dit son médecin, entre 6 mois et 1 an à vivre. Le film raconte donc ce laps de temps et ce laps de temps dont dispose Benjamin pour se mettre en règle avec lui-même avant la fin. On le suit donc dans son travail avec ses élèves, à qui il cherche à transmettre sa passion du théâtre et du métier d'acteur. On suit aussi sa relation avec sa mère, une mère hyper protectrice, évidemment bouleversée par le sort qui attend son fils et qui ne peut accepter l'inacceptable. Et parallèlement, eh bien, le film évoque le rôle des soignants auprès des malades, et plus particulièrement celui du docteur Sarah dans son propre rôle, et ici donc dans son rôle d'accompagnant particulièrement humain et chaleureux, compatissant, qui apprend à Benjamin à préparer sa mort. C'est sûrement d'ailleurs le meilleur aspect du film, en tout cas le plus nouveau dans le genre du mélodrame oncologique, comme le disait l'un des critiques, de se focaliser aussi sur ce médecin extrêmement attachant. Voilà donc voilà le genre de situation que personne évidemment n'a envie de vivre, et cela certainement empêchera beaucoup de gens d'aller voir un film sur un tel sujet. On n'a pas forcément envie d'affronter deux heures durant autant de souffrances, ça se comprend. Donc difficile de garder le recul nécessaire pour juger une telle œuvre. Alors si on en reste juste sur le plan cinématographique, hein, sans juger du fond, le film est porté par des acteurs magnifiques, bien entendu, dans des rôles hyper difficiles. La mise en scène est sobre, elle n'évite pas toutefois certaines embûches. Quelques scènes sont même un petit peu embarrassantes, je dirais. Et puis, il y a sans doute trop de sous-intrigues. Le film est digne, il n'élude rien des souffrances physiques et psychologiques des protagonistes. C'est par moments, évidemment, totalement déchirant. Tant regarder la mort en face est forcément quelque chose de douloureux. Après, la façon d'appréhender ce genre de situation, c'est forcément quelque chose de personnel. On n'est pas forcément obligé d'adhérer à tout ce que dit le film, tout ce qu'il montre. Toutefois, c'est vrai qu'on aimerait bien, en pareille circonstance, pouvoir compter sur un médecin et un personnel soignant autant à l'écoute au moment de la fin de vie, autant empathique. C'est un mélodrame forcément bouleversant, presque trop apaisé et serein, d'ailleurs, pour mon goût. Voilà, donc, de son vivant, film qu'on peut voir au Méga CGR, au Pâté Quinconce. Mais c'est vrai que cette semaine, si entre l'événement et de son vivant, on n'a pas des films qui sont franchement des films de distraction pour aller au cinéma. Hein. Voilà, donc.
C'est pas très gay, non?
Non, voilà, on va changer radicalement. Là, on passe à Encanto, la fantastique famille Madrigal. Encanto, la fantastique famille Madrigal. Alors, là, on peut le voir au Méga CGR. On peut le voir au Colisée, on peut le voir au Pâté Quinconce. C'est un film d'1h43. Ils se sont mis à trois pour le réaliser. Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro-Smith. Alors, jusqu'à maintenant, Charise Castro-Smith, c'est son premier long-métrage. Pour Byron Howard, il a co-réalisé déjà Volt, Star malgré lui, Réponse, co-réalisé également, et Zootopie, co-réalisé également avec le fameux Jared Bush. Voilà, donc pour ce qui est de la revue de presse et de la longueur du film, 1h43. Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison hantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L'Encanto a doté chacun des enfants de la famille d'une faculté magique, allant d'une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n'a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l'Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir. Alors, Stéphane Dreyfus dans La Croix, comédie musicale entraînante, le dernier né de Disney, est aussi une réflexion sur la famille, sa dynamique, ses pouvoirs magiques et ses failles humaines. Olivier Delcroix dans Le Figaro, cette comédie musicale endiablée, qui une nouvelle fois puise son inspiration dans les légendes sud-américaines, comme Coco, il y a 4 ans, et dont les airs restent dans la tête après la séance, mettant en joie petits et grands, en s'étant troublés. 1h43 d'évasion en famille ne se refuse pas. Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche, un divertissement plein d'humanité et de magie, qui s'appuie sur le livret très inspiré du compositeur Lin-Manuel Miranda. Catherine Ball dans Le Parisien, des lumières dorées éclairent les couleurs chatoyantes de l'Encanto et de la forêt colombienne dans un époustouflant feu d'artifice visuel. Et dans cette galerie de personnages métissés aux grands yeux, on craque pour Antonio, le petit cousin au sourire irrésistible. Déborah Lechner dans Écran large. Loin d'être mauvais ou sans âme, Encanto n'en est cependant pas moins générique. Le film reste sagement dans la lignée des précédentes productions de Disney, sans jamais chercher à revisiter la nouvelle recette du studio. On aurait donc préféré être gentiment bousculé qu'éternellement bercé par les mêmes histoires. Jacques Mandelbaum, Le Monde, en précisant qu'on a assisté à la version française du film, les chansons mix et gosillées de chanteuses à tri interchangeables et de hip-hop des familles nous ont paru atroces. Dirons-nous que les enfants ne tireront nul profit de ce spectacle? On se gardera d'une telle certitude. Alors, Pierre? Bah, tu l'as vu en version française.
Je suis pas trop d'accord. Hein.
Tu l'as vu en version française.
Oui, mais bon. les chansons, j'ai aimé, moi.
Bon,
bah, cette semaine, je suis donc retombé en enfance.
Eh bah, c'est bien.
En allant voir ce film d'animation. Très orienté, tu l'as dit, comédie musicale. Un film des studios Disney. Bah, c'est normal, Noël approche, on est tous des grands-enfants. Encanto, alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Eh bien, c'est une région de Colombie. C'est là que se déroule ce film à la fois fantastique et féerique. Très peu de public à cette séance, c'était hier après-midi, jeudi.
Ah, mais c'est normal, les enfants, ils travaillent quand même.
Voilà, c'était un jour d'école, mais gageons que ce week-end, le jeune public sera au rendez-vous. Beaucoup de chansons dans ce film, donc, et des chansons en français, mais aussi en espagnol. Normal, on est en Colombie. Moi, j'ai aimé les chansons, hein. La dernière critique, là, c'était dur, hein, quand même. Des séquences drôles, mais aussi ce film s'adresse en grande partie aux enfants, tout de même. Et je crains que les parents n'y trouvent pas leur compte, jeu de mots.
Mmh, bien sûr, voilà.
Deux orthographes possibles.
Oui.
Allez-y quand même pour les parties musicales signées Lin-Manuel Miranda.
Bien, donc on y va, soit au Colisée, soit au Méga CGR, soit au Pâté Quinconce. Pas de musique tirée de Encanto, mais des musiques tirées de Suprême, dont on parle dans une petite dizaine de minutes, et on commence par un titre de Suprême NTM, Blanc et Noir, donc sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Je suis noir.
La différence ne se voit que dans les yeux des bâtards.
Trop tard.
Différence ethnique, alliance de culture. Voilà les raisons de notre progression, c'est sûr. J'ai l'esprit clairvoyant et les yeux bien ouverts. Car j'aspire, j'espère, mais qu'avoir à faire taire dans l'instant tous les soi-disant prophètes. Les propagateurs adulateurs d'une race parfaite. C'est clair et net, la démonstration est faite. 10% pour le pain, nos élections c'est une défaite.
En fait,
prends ça dans ta face, quelle que soit ta race. Blanc et noir, noir et jaune, jaune et rouge, rouge au beurre. Je m'adresse à la jeunesse, celle qui se dresse sans cesse. Sans peur ni crainte face au dictateur dont l'empreinte reste une offense. Pour ce monde qui avance, je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire.
Blanc et noir, l'histoire est à revoir.
Ok, chaîne, je reprends pour faire monter la tranche. J'augmente les volumes, là, tout se gonfle, ma promotion au film, j'ouvre les yeux. Les faussaires sont partout. Oui, ces individus qui crachent en mort sur le pen et entretiennent le même style de haine. Du genre complètement manipulé par des pseudo-suppos de prophètes. Le décalage est certain, mais maltraitant le bâtard.
Qui se dit blanc, qui se dit beurre, qui se dit noir.
NTM et l'impact, sans aucun sens ou taxe. Sur les joints de toute attaque, des ennemis de la liberté. Fils de pute qui réfutait ce but dans les préjugés dépassés.
Pompéla, pompéla.
Ankylosés par les années, quant à nos pères endoctrinés par leurs aînés, sont déjà prêts à assurer la relève. Donc une seconde attention. Car préalablement, toujours sans faux semblant, la société me tire à ses pas de l'avant. Je suis renard, c'est un bravant.
Et pourtant, dans nos veines coule le même sang. Je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire.
Blanc et noir, l'histoire est à revoir.
Je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire.
Blanc et noir.
Farrakhan ou Le Pen, même combat pour la haine, je dis stop.
C'en est trop, go.
Attention danger, ne laisse pas véhiculer dans ton esprit leurs idées. Leurs paroles, leur volonté, leur notion d'attarder. Fanatique, policier, ta raison n'a pas de sens. Je suis blanc, il est noir, alors prends ça comme une offense. Car en France, le problème n'a pas lieu d'exister. Les États-Unis ne sont pas toujours bons à copier. Multiracial est notre société.
Bon.
Alors bougeons ensemble et créons l'unité. Car depuis longtemps,
trop longtemps,
oui depuis trop longtemps, depuis que le monde est monde, la couleur est une frontière. Une barrière, c'est clair, je déclare la guerre à la terre entière d'un revers autoritaire. Je balaye, je combat, plus un après l'autre, j'abat.
Bon.
Le Front National, les skins, la partie de le ghetto.
Bon, bon.
Je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire.
Blanc et noir, l'histoire est à revoir.
Je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire.
Blanc et noir, l'histoire est à revoir.
Parallèlement, je te démontre que quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta nature, aucune race n'est supérieure car il n'y a pas de couleur pour être un cartonneur.
Asphyxiant le préjugé car toute connerie a ses limites.
L'indulgence, je m'en dispense.
Toutes ces conneries dérisoires, comment peux-tu y croire? De quel droit peux-tu penser que cette chose dans laquelle tu te tiens nous diffère?
Car sans comprendre, sans apprendre, tu t'enfonces. Et je n'ai même pas pitié de toi car alors je te parle. Prends-tu seulement conscience de mes mots?
Je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire.
Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Blanc et noir, l'histoire est à revoir.
Blanc et noir, Suprême NTM, c'est le titre exact du groupe, hein, Suprême NTM. Suprême, on en parle dans 5-6 minutes. House of Gucci, c'est un film qui est proposé à la fois au Pâté Quinconce avec une séance en VO au moins chaque jour et au Méga CGR. C'est un film de Ridley Scott. Ridley Scott, réalisateur, scénariste, producteur britannique né en 1937. Je ne vais pas vous faire toute la filmographie de Ridley Scott. Ça prendrait toute l'émission pratiquement. Sachez qu'il a commencé en 1977 sur le grand écran avec Les Duellistes. Et puis on lui doit, allez, je vous cite quand même quelques films. Alien, le 8e passager, oui c'est lui quand même. Blade Runner, oui c'est lui. Thelma et Louise. Et oui, absolument. Gladiator, mais oui. La chute du Faucon Noir. Et puis, tout récemment, on va rester sur les derniers films. Eh bien, Seul sur Mars, Alien Covenant, 2017 aussi, Tout l'argent du monde. Et puis, tout récemment, il n'y a même pas un mois et demi, hein, Le dernier duel avec Matt Damon et déjà Adam Driver dans le film. Ce film, House of Gucci, attention, fait 2h37. Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. À la fin des années 70, le groupe est dirigé par les deux fils du fondateur, Aldo, personnage rusé et haut en couleur, et son frère Rodolfo, beaucoup plus froid et traditionnel. Pugnace, Aldo n'a pas la moindre intention de céder le contrôle de l'empire à qui que ce soit, et certainement pas à son fils Paolo, garçon fantaisiste qui aspire à devenir un styliste. Quant à Maurizio, fils timide et surprotégé de Rodolfo, il a davantage envie d'étudier le droit que de diriger un groupe de luxe mondialisé. C'est alors que Maurizio tombe amoureux de la ravissante et manipulatrice Patricia Reggiani et, contre l'avis de son père, décide de l'épouser. Lorsqu'Aldo se découvre des affinités avec Patricia, il réussit, avec l'aide de la jeune femme, à convaincre son neveu de renoncer à ses ambitions juridiques pour intégrer l'entreprise dont il devient de facto le probable héritier. Ce qui ne manque pas de nourrir la rancœur de Paolo, dont le talent n'est pas à la hauteur de ses rêves artistiques. Ça, c'est cool, début du film, hein. Alors, Renaud Baroni en Le Parisien, à la fois saga familiale, thriller, romance et récit d'un fait divers sanglant qui a secoué l'Italie, House of Gucci, dont les 2h37 passent presque trop vite, est de ces films qui donnent l'impression à chaque plan d'assister à quelque chose de gigantesque. Eric Neuf, Le Figaro, Ridley Scott, reproduit un concentré d'élégance, costume, coiffure, rien de laissé au hasard. Lady Gaga joue la demoiselle perdue d'avidité avec une jubilation communicative, elle a du bagou. Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche, une tragédie en trois actes, captivante et édifiante, qui rit par son casting 3 étoiles et ses numéros d'acteurs, Jared Leto, phénoménal, de quoi oublier quelques longueurs. Oui, alors signalons également qu'il y a Al Pacino, Jeremy Irons, et donc Lady Gaga et Adam Driver. Alain Blanvillain, Le Journal du Dimanche, ni produit de luxe, ni contrefaçon, House of Gucci s'apprécie pour ce qu'il est, mais perd à ne pas être autre chose. Trop sérieux pour être drôle, trop drôle pour être sérieux. Le film jongle entre les deux sans parvenir à trouver l'équilibre à l'image d'un casting exceptionnel jouant sur des catégories différentes. Adrien Gombeau, dans Les Échos. À travers ce récit, on pouvait rêver d'une fresque shakespearienne sur la déchéance d'une époque, l'agonie d'une vieille Europe et le coup d'état des multinationales sur les empires familiaux. House of Gucci ne sera pas tout à fait ce film-là, juste une réjouissante partie de bowling dans un mode de luxe, dans un monde de luxe et de quilles. Antoine Desrues, ou Desrues, je ne sais pas comment on dit, écran large, Desrues, oui, certainement Desrues, il est français. Antoine Desrues, écran large. S'il est interminable, House of Gucci montre surtout que Ridley Scott a définitivement lâché l'affaire, autant en termes de mise en scène que de direction d'acteur. Une sacrée déception pour un projet dont on perçoit pourtant le potentiel inassouvi. Lelo Jimmy Battista, dans Libération, on attendait du souffle, de la flamboyance, on n'en a que le vernis, on voulait de l'excès, de la démesure, on a un gros machin balourd qui ne sort jamais des clous. Et François Foresti dans l'Obs, pas un film qu'on regarde, mais qu'on subit. Alors, est-ce que j'ai aimé ou pas aimé? Est-ce que je suis dans ceux qui ont apprécié et ceux qui ont détesté? Eh bien, je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé House of Gucci. Ben oui, j'ai beaucoup aimé House of Gucci. C'est la passionnante histoire de la famille Gucci, grande marque internationale de luxe. Et c'est un film qui est une histoire qui est digne des grandes tragédies antiques avec Maurizio, le petit-fils du fondateur, avocat, peu intéressé par l'affaire familiale dirigée par son père et son oncle, mais qui tombant sous l'influence d'une redoutable jeune femme arriviste, ambitieuse, qui met le grappin littéralement sur lui, puisqu'elle l'épouse, et elle va devenir son âme damnée à force de manipulation, jusqu'à ce que ce dominé devienne lui-même un redoutable dominant. Voilà, donc argent, passion amoureuse, jalousie, trahison à tout le niveau dans cette famille en plein délitement. On suit donc cela comme un vrai thriller dans l'univers du luxe, avec des personnages étonnants entre manipulation et coup foureux, Coup fourré. Le film nous fait pénétrer dans un univers impitoyable où l'avidité gouverne tout. C'est passionnant de bout en bout. L'interprétation d'Adam Driver et surtout de Lady Gaga est absolument impressionnante, mais on peut souligner tout le casting aussi. Hein. Alors Lady Gaga, elle joue le rôle de cette Patricia et c'est une femme tour à tour sensuelle. Pour se faire désirer par le fameux Maurizio, mais aussi ambitieuse, perfide, manipulatrice, et puis trahie, et puis enfin vengeresse. C'est une grande composition, parce qu'on peut révéler, hein, elle va faire assassiner son mari, puisque c'est une histoire qui est connue, il n'y a pas un suspense colossal. Elle va faire assassiner avec des mafiosos siciliens, des hommes de main, conseillés par une sorte de voyante qu'elle consulte régulièrement, c'est incroyable. Donc la mise en scène est luxueuse, limpide, on n'est jamais perdu dans cet imbroglio qui pourtant pourrait vous faire perdre le fil de l'intrigue. Non, c'est parfait. Ça fait que les 2h30, moi je ne les ai pas ressentis parce que l'intrigue va crescendo. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé House of Gucci. Attention, je l'ai vu en VO, je ne sais pas ce que ça donne en version française. Je l'ai vu en VO au Pathé Quinconce, mais il y a aussi des VF au Pathé Quinconce et on peut le voir aussi en VF au Méga CGR. Mais en tous les cas, pour moi, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et même si je redoutais un petit peu la longueur, ben, comme le film va vraiment crescendo, on s'ennuie un petit peu au début, mais pas ensuite. Voilà. Suprême, eh bien, toujours pareil, méga CGR, Pathé Quinconce. Suprême, c'est un film français de Audrey Estrougaud. Audrey Estrougaud, réalisatrice, scénariste, productrice. Elle a réalisé en 2007 Regarde-moi. En 2008, Encore un printemps, qui est un documentaire. 2009, Toi, moi et les autres, avec Leïla Bekti et Cécile Cassel. 2013, Une histoire banale avec Marie Denardot. Et 2014, alors ça, c'était pas un succès, c'était pas une réussite, La Tolarde avec Sophie Marceau, Suzanne Clément. C'est un des peut-être les plus mauvais films de Sophie Marceau. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il y avait une histoire qui pouvait être intéressante. Alors donc, ce film suprême dure 1h52. On est en 1989, dans les cités déshéritées du 93, du 9-3 comme on dit. Une bande de copains trouve un moyen d'expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Après la danse et le graff, Joey Starr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le suprême NTM est né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants. Alors, Caroline dans 20 minutes, Théo Christine et Sandor Funtek, éblouissants, incarnent respectivement Joey Starr et Kool Shen dans ce film passionnant. Olivier Nul dans Le Figaro, l'énergie et l'enthousiasme du film sont communicatifs, une véritable épopée riche en personnalités haute en couleurs. Muriel Judé dans Le Monde, Audrey Estrougaud restitue avec justesse l'émergence du groupe de rap emblématique des années 90. Emmanuel Spalacenta dans Cinématiseur, adoubé par les vrais Joey Starr et Kool Shen, le film toujours sous contrôle, jamais libre d'une mise en perspective. C'est donc la limite de Suprême, il n'est jamais à la hauteur du miracle accompli par ces comédiens qui ont eu, eux, l'intelligence et le talent de marier déférence et appropriation de Star are Born. Nicolas Chalère dans L'Obs, les jeunes acteurs sont formidables, la dynamique chaotique du groupe et l'énergie des concerts bien recréée, des bémols, l'écriture pavlovienne du rapport douloureux de Joey Starr à son père tyrannique et la dimension sociétale, assez sommaire, après une ouverture judicieuse sur un discours de François Mitterrand sur l'état des banlieues toujours d'actualité. Lelo Jimmy Battista dans Libération Suprême est un film parfaitement rectiligne, de la mouise à la gloire, en passant par les sorties de route et les grandes accélérations, plein de raccourcis acrobatiques et fatalement de clichés épuisants. Et ça marche, pas follement, pas vertigineusement, mais ça marche, grâce essentiellement à une énergie contagieuse, basée sur un schéma répétitif mais efficace, et une interprétation souvent impressionnante. Frédéric Foubert dans Première, c'est la puissance normative du biopic Wikipédia et sa déprimante succession de cases à cocher qui fout tout en l'air. Suprême, donc c'est un film proposé par le Méga CGR et par le Pathé Quinconce. C'est un biopic inattendu, mais plein d'énergie sur les débuts du groupe de rap français NTM. On va de la fin des années 80 au début des années 90, en fait, c'est sur 3 ans. Alors évacuons tout de suite le fait que je n'ai aucune affinité avec ce genre musical. Je n'en comprends pas les paroles, qui sont plus pour moi vociférées que chantées, donc quasi inaudibles. Mais bon, ça c'est parce que je suis un vieux con, hein, ça c'est évident. C'est question de génération, et puis aussi d'appartenance sociale. Moi, je n'ai pas grandi ou vécu dans la banlieue, donc bon, ça me dépasse clairement. Alors évacuons cela et concentrons-nous sur les indéniables qualités du film, parce que le film en a de ces qualités. En premier lieu, tout le monde l'a souligné, ces deux jeunes interprètes incarnant magistralement Joey Starr et Kool Shen, les leaders du groupe. Ces deux interprètes sont plus vrais que nature dans leur rage à s'exprimer. Ensuite, la mise en scène, eh bien, je la trouve enfiévrée, speedée, enragée même. Le film évoque donc la vie d'une bande de potes de Seine-Saint-Denis. Ils sont d'abord graffeurs et taggeurs de rames de métro. Et puis, ils arrivent dans le rap, un mouvement musical qui en est à ses tout débuts à cette époque, et qui leur permet d'exprimer leur révolte, leur revendication, leur rage face à la société de l'époque et leurs difficultés à s'y intégrer. Et ils le font à travers des textes scandés plus que chantés, inventés par deux d'entre eux de ce groupe qui vont devenir les leaders, et ces leaders c'est bien entendu donc Joey Starr et Kool Shen. Le film donc évoque les débuts dans des salles miteuses, des MJC où les concerts finissent souvent en baston, puis aussi leur découverte par de jeunes managers qui croient en eux et vont tout faire pour canaliser leur énergie pour produire leur disque auquel personne ou presque ne croit. Le film parle aussi des conflits qui éclatent entre les membres du groupe, et puis aussi de la difficile relation de Joey Starr avec son père, qui le méprise et qui le rejette. Là, ça prend peut-être un peu trop de place dans le film, mais bon, après tout, pourquoi pas. C'est un film étonnant par sa puissance évocatrice, cette impression d'immersion dans le groupe. Alors, le grand public sera-t-il séduit? Je ne sais pas. Et les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que pour eux, NTM représente quelque chose? Parce que quand même, c'est les années 90, hein.
Ouais, donc,
ça a quand même plus de 30 ans. Hein.
Les 30-40 ans, peut-être.
Je ne sais pas, hein, si ouais, les jeunes publics ne les considèrent pas comme des croulants. J'espère que non, enfin, j'en sais rien après tout. Voilà, donc Suprême, proposé par le Méga CGR et par le Pâté Quinconce. Bon, alors cette fois-ci, on ne va pas écouter un titre extrait de la bande originale du film Suprême, mais on va écouter le titre qu'on entend sur le générique de fin du film De son vivant. C'est un petit peu le tube de l'année dans les bandes originales, c'est Voyage Voyage. On l'a déjà entendu plusieurs fois.
Ah oui, encore.
Mais ça n'est pas la version de Desireless, c'est une version totalement alternative d'un groupe qui s'appelle Soap Skin, Voyage Voyage, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Voilà, c'est sur le générique de fin du film De son vivant. Je pense que ça va démarrer.
Oui, ça vient, ça vient.
Des vieux volcans glissent des selles sur le tapis du vent. Voyage, voyage, éterne le monde. Des nuages méritent. Espagnol plus d'équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, décide fatal. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et les jours. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée.
Thank you.
chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tous les royaumes. Sur les dunes du Sahara, des Ifiti ou Fushihama. Voyage, voyage, ne t'arrêtez pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regardez l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et les jours. Voyage dans l'espace ébloui de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée.
Voyage, voyage, Soap Skin, un titre que l'on entend sur le générique de fin du film De son vivant. Oui, une
version très remaniée. Hein.
Oui, oui, très très remaniée. Oui, mais enfin, Desireless touche les droits d'auteur quand même. Hein, si
oui.
Voilà, bon. Allez, Soul Kids, c'est un film qui est proposé par les cinéastes, un documentaire de Hugo Sobelman. C'est son premier long métrage, ce réalisateur et scénariste français. Une séance par jour, on est à Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées. La Stax Music Academy fait figure d'oasis, fondée sur l'héritage du label légendaire des années 60, qui accompagnait la lutte pour les droits civiques. Cette école de musique extrascolaire et gratuite permet à des adolescents passionnés d'apprendre et de comprendre l'histoire noire américaine à travers la découverte des plus grands tubes de la soul, un voyage musical dans le temps et une plongée dans la pensée d'une nouvelle génération. La rédaction de West France parle d'un très beau film. Le journal du dimanche, Baptiste Thion, parle d'un film modeste, mais attachant et pertinent. L'Obs, Xavier Le Herpeur, un documentaire classique en apparence qui parvient à exprimer la confusion identitaire de la jeune génération noire américaine. Thierry Chaise dans Première, les échanges autour du rap, des dévoiements par tant de rappeurs du message originel véhiculé par ce genre musical et de la manière d'y remédier sont particulièrement passionnants car dépouillés de tout raccourci simpliste. Un documentaire emballant. Voilà, Soul Kids, 1h15, une séance par jour au cinéaste. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Là, on a le Colisée, le Méga CGR, le Pathé Quinconce. J'ai pas vérifié s'il y avait de la version française. Je suis pas du tout certain que ce film ait droit, la version originale, pardon, la version française. Oui, c'est sûr. La version originale, je suis pas du tout sûr. C'est un film interdit moins de 12 ans. Ce Resident Evil a été réalisé par Johannes Roberts. C'est un réalisateur scénariste britannique d'un 76. Il a déjà réalisé quand même pas mal de films inédits en France, donc on ne va pas les développer, ou envoyer directement sur les étagères des DVD. Mais bon, 2015, un film qui s'appelait The Door semble être sorti sur les écrans. Et en 2018, Stranger, Pray at Night. Et puis voilà, donc ce qu'on peut dire. Sinon, je vous dis, c'est soit inédit en France, soit en e-cinéma ou Amazon Prime, etc., etc. Alors, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Autrefois, le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City, est aujourd'hui une ville à l'agonie. L'exode de la société a laissé la ville en friche et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais changés et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit. Michel Valentin dans Le Parisien, rien de neuf, rien de bien neuf sous le soleil, totalement inexistant d'ailleurs dans ce long métrage, mais un spectacle bien troussé, apte à relancer la franchise. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, en choisissant un ancrage réaliste qui convoque les angoisses actuelles de la pandémie, une ambiance résolument anxiogène et des acteurs inconnus, ce préquel efficace repart sur des bases saines tout en soignant son hommage au jeu. Oui, il faut rappeler que c'est un jeu vidéo au départ, Resident Evil. Alexandre Poncet, Mad Movies, sans être convaincant sur tous les fronts, le long métrage reste d'une honnêteté rafraîchissante et son récit généreux est presque autosuffisant, en fait une série B, anachronique qu'on aimerait, comme on aimerait en voir plus souvent. Pas vu Resident Evil, pas vu Bienvenue à Raccoon City, mais on peut le voir au Colisée, au Méga CGR, au Pâté Quinconce. Allez, on repart au cinéaste, et là on va y voir éventuellement Au Crépuscule, un film lituanien de Šarūnas Bartas, réalisateur qui a quand même à son actif un certain nombre de films, réalisateur, scénariste et même acteur, il est en 64. Allez, je vous fais sa filmographie, 95, un film qui s'appelait Trois Jours, 95 également Corridor, 1997 The House avec Valeria Bruni Tedeschi et Léos Carax, 2000 Freedom, 2010 Indigène d'Eurasie, 2016 Peace to in our Peace to in our Dreams et 2018 Frost. Voilà, c'est les films qui ne me disent strictement rien. Šarūnas Bartas, Au Crépuscule, 2h07, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un village isolé en Lituanie. Alors que la misère ne laisse place à aucune liberté, le jeune, alors Unti, je ne sais pas, et le mouvement des partisans dans lequel il s'est engagé doivent faire acte de résistance face à l'emprise de l'occupation soviétique. De cette lutte désespérée dépend l'avenir de tout un peuple. Baptiste Roux en positif, sans manichéisme ni idéalisation, l'économie de survie interdit l'héroïsme ou la franche saloperie, l'œuvre livre une chronique glaçante des derniers feux de la répression avant liquidation. Jacques Maurice dans Télérama, ce sont des combattants épuisés, acculés. Šarūnas Bartas les montre comme des gueux faméliques, aux yeux perçants, des morts en sursis, à peine héroïques. N'empêche, son film a valeur de tombeau pour la plupart de ses sacrifiés, hommes et femmes, qui ont résisté de manière active ou passive. Le Monde, Mathieu Macheret, Šarūnas Bartas confronte son cinéma d'ordinaire intime et méditatif à un sujet historique plus vaste qu'il passe au tamis de ses longues prises flottantes imbibées de demi-jours fragiles. Le Journal du Dimanche, Baptiste Thion, le Journal du Dimanche, la mort et le danger rôdent. Pourtant, tout du long, le cinéaste déployant une atmosphère oppressante au fil de ses plans fixes. Il prend son temps, quitte à traîner en longueur. C'est aussi un récit puissant qui touche quelque chose d'universel. Qui richesse en première, un cinéma poseur, à force de ne jamais se renouveler et qui finit par étouffer son récit, comme si tendre la main au spectateur dans un simple geste pédagogique représentait pour lui l'antéchrist absolu. Donc cette dernière critique m'a définitivement pas donné envie d'aller voir Au Crépuscule. Au Crépuscule, vous avez une séance par jour, sauf d'ailleurs aujourd'hui si vous nous écoutez en direct. Au Crépuscule, Šarūnas Bartas, au cinéaste. Et dernier film, toujours au cinéaste, c'est un documentaire, Frida Vida la Vida. Viva la Vida, de Giovanni Troilo. Giovanni Troilo, c'est son premier long-métrage, c'est un réalisateur et scénariste italien. Le film a droit à une séance par jour, pas plus, et pas lundi d'ailleurs, mais sinon une séance par jour pour ce film, donc sur Frida Kahlo. Alors, le film présente les deux facettes de Frida Kahlo. D'un côté, l'artiste révolutionnaire, pionnière du féminisme contemporain, de l'autre, l'être humain est victime d'un corps torturé et d'une relation tourmentée. Au fil de la narration d'Asia Argento, ces deux aspects de l'artiste sont révélés par le biais de paroles de Frida, tirées de ses lettres, journaux intimes et confessions privées. Le film présente tour à tour entretiens, documents originaux, reconstructions captivantes et tableaux de l'artiste conservés dans certains des plus extraordinaires musées du Mexique. Ben alors, une presse n'est pas très enthousiaste à l'égard de Frida, Vida la Vida. Frédéric Foubert en première. Ce film n'apprendra sans doute pas grand-chose aux connaisseurs, mais il peut faire office de bon point de départ pour les néophytes. Les œuvres de Kahlo y sont intelligemment disséquées et constamment mises en perspective avec sa biographie, déroulée ici avec minutie. Stéphanie Belpech, le Journal du Dimanche, mais pourquoi plomber la narration avec des parenthèses oniriques superflues et en commentaire d'Asia Argento, face caméra. Le récit s'en trouve décousu et le rythme en dents de scie. Libération, Camille P. Les seuls moments où le film surnage, c'est quand il laisse un peu de place à l'artiste, à ses textes récités ou aux analyses de ses tableaux. Le reste du temps, outre l'enchaînement sans but des plans et du vernis cheap qui recouvre le tout, il se perd dans les mêmes travers que la plupart des travaux qui se penchent sur la vie de la peintre, toujours glorifie la souffrance pour encenser une résilience guimauve, dit d'un manuel de développement personnel. Voilà, Frida, viva la vida, c'est au cinéaste. Allez, un dernier titre avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine et les avant-premières. C'est un titre qu'on entend dans Suprême, c'est Bill Withers, Lean on Me, sur Radio Alpa, 107.3 FM.
Ça c'est bien ça.
Voilà, on fait plaisir.
Amateur de soul, oui.
Voilà. Alors c'est sur Lean on Me de Bill Withers qu'on entend dans le film Suprême que je vous ai préparé les avant-premières. Il y en a beaucoup aux avant-premières. Déjà, si vous nous écoutez en direct ce soir, Franck Dubosc vient présenter son film Rumba la vie qui ne sortira qu'en février. Alors c'est théoriquement 20h45 au Méga CGR, mais en fait non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va venir faire l'entrée au Pâté Quinconce à 21h et il fera la sortie au Méga CGR. Donc au Méga CGR, il ne sera pas à 19h45, il sera à la fin du film. Mais il est prudent de retenir ses places parce que là, il y a quand même de la demande. Donc c'est ce soir, en présence de Franck Dubosc, son film en tant que réalisateur Rumba la vie. Dimanche, c'est pour les enfants, Clifford, le film d'animation. Alors il est à 11h15 au Méga et à 13h15 au Pâté. Et Omega CGR, après, vous pouvez enchaîner à 13h45 pour Mystère. Toujours Omega CGR, mardi, La Méthode Williams, un film qui sortira mercredi. La Méthode Williams, c'est sur les sœurs, un biopic sur les sœurs Vénus et Serena Williams. Et puis, si vous nous écoutez en direct, sachez également que vendredi prochain, il y aura la présence de Charlotte de Turckheim au Omega CGR pour présenter Mince alors 2. Donc, il est prudent de réserver éventuellement. Voilà, donc, pour ce qui est des films à l'affiche la semaine prochaine, il y a des choses quand même très intéressantes qui sont prévues. Il y a Les Choses humaines de Yvan Attal, qui me paraît être un film très intéressant. Il y aura également SOS Fantôme, L'Héritage. Là, je l'ai vu hier soir et pourtant en VO. C'est plutôt quand même un film pour les adolescents. Hein. Faut pas.
C'est la suite des années 80, non?
Alors, c'est le reboot.
Le reboot.
Comme ça, voilà, pour parler en français. Madres Paralelas de Pedro Almodovar. Ça, c'est forcément à voir, puisque c'est Almodovar. Il y aura de la VO, bien sûr, puisque le film est proposé au cinéaste, entre autres. Autre film, Animal, un documentaire de Cyril Dion. Animal, c'est un film sur la sixième extinction des espèces. Voilà, La Méthode Williams, donc, qui est prévue de sortie, alors en espérant qu'il y aura au moins une VO au pâté. Clifford, donc on en parlait il y a un instant, au cinéma, film d'animation. Et puis les cinéastes, à nouveau, vont sortir 4 films. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont les placer. La pièce rapportée d'Antonin Peretchako. La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov. Il avait réalisé un film qui avait été formidable, qui s'appelait L'Étau. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller voir un film qui fait 2h25, parce que déjà, Madres Paralelas, c'est 2h, La Chose Humaine, 2h15. Et puis, il y a aussi un film qui s'appelle Maman pleut des cordes, un dessin animé. Donc là, je pense qu'il y aura très peu de séances. Voilà, pour ce qui est des films de cette semaine, moi, je vous recommande absolument House of Gucci, L'Événement, Mais l'événement, c'est pas pour se marrer, hein. C'est clairement.
Ouais, mais c'est quand même un très beau film.
Voilà. Et peut-être que pour les petits enfants, notre ami Pierre.
Oui, alors je suis mitigé hein, sur ce film, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je conseillerais aux parents d'attendre le mercredi prochain. Il y a des bonnes sorties là pour les enfants avec Clifford, avec Mystère. Je leur conseille plutôt ces films-là.
Bon, eh bien, sur ces bonnes paroles, on vous dit à la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Merci. Au revoir.